Notre invité depuis 7h40 est le philosophe Guillaume Leblanc pour son livre « La fin de l'hospitalité » coécrit avec Fabienne Brugère. La fin, peut-être pas finalement, puisque le Conseil constitutionnel a censuré le délit de solidarité pour les personnes qui aident au séjour des étrangers en situation irrégulière sur le territoire. Il en sera entre autres question tout à l'heure à l'Assemblée nationale qui examine en deuxième lecture le projet de loi Asile et Immigration. Guillaume Leblanc, nous avons parlé solidarité, hospitalité, le principe de fraternité mis en avant par le Conseil constitutionnel, quel devoir nous donne-t-il et surtout qu'est-ce que son emploi par les sages peut changer ?
Oui, vous avez parlé de la fin d'hospitalité, c'est intéressant parce qu'on peut décliner, il y a la fin, la disparition d'hospitalité, celle que nous avons diagnostiquée avec Fabienne Brugère, et puis il y a la fin, le but de l'hospitalité d'une certaine manière. Et au fond, l'idée de fraternité, c'est peut-être la raison d'être de l'hospitalité, c'est-à-dire que il existe effectivement, par-delà les nations, des liens qui sont, au fond, qui font signe avec l'idée même d'humanité. Et le Conseil constitutionnel a effectivement donné un contenu effectif à l'idée de fraternité en associant la fraternité à la possibilité d'aider autrui sans contrepartie. Le Conseil constitutionnel a en quelque sorte formulé et fourni un contenu à notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Pendant longtemps, on considérait au fond les deux premiers termes plutôt que le troisième, c'est-à-dire qu'on, plus exactement, on disait oui, liberté, on voit ce que c'est, égalité, très bien, effectivement, mais fraternité, c'est une espèce de supplément moral que l'on confère comme ça à notre République. Or là, pas du tout. La notion de fraternité acquiert un contenu et désormais, elle vaut comme cadre républicain. C'est-à-dire que, et ça c'est notre histoire propre, c'est l'histoire de la France en un certain sens. Après tout, en se liant à cette devise liberté, égalité, fraternité, dès 1848, la République française s'est donné un cadre. Un cadre d'action, un cadre de représentation, un cadre qui a une valeur normative. Et désormais, effectivement, ne pas se référer à la fraternité dans des formes d'entraide, dans des formes d'hospitalité, c'est sortir de ce cadre.
Il y a encore une connotation quand même très chrétienne ou post-chrétienne à ce mot de fraternité, même de solidarité d'ailleurs. Et, oui. Et votre manifeste « Vaincre nos peurs et tendre la main » a quelque chose aussi de presque de l'évangile. Quel rôle a encore l'Église aujourd'hui dans les politiques d'accueil, dans cette mission d'hospitalité, plus de 20 ans après l'expulsion des sans-papiers de l'Église Saint-Bernard ?
Oui, bah disons qu'il y a une longue histoire des formes d'entraide et des pratiques de solidarité dans laquelle on peut quand même analyser un déplacement de l'idée chrétienne de charité à l'idée sociale ou socialiste de solidarité. Après tout, quand Leroux, en 1840, justement, utilise le terme de solidarité, il l'utilise de façon très consciente pour remplacer la notion de charité. Ce remplacement a une valeur extrêmement importante dans la naissance d'une République sociale. Et donc, je crois qu'il est très intéressant aujourd'hui d'interroger de façon assez conjointe ces termes de fraternité, d'hospitalité, de solidarité, en montrant peut-être aussi l'impensé national. Parce que ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on a un impensé national de la fraternité, un impensé national de la solidarité qui devient extrêmement évident. Après tout, quand justement dans le préambule de la Constitution de 1848, l'article 7, on a l'idée que la République doit une assistance fraternelle à tous ceux qui sont dans le besoin, aux citoyens nécessiteux, la question se pose de savoir qui sont les citoyens nécessiteux. Et forcément, ce sont des sujets nationaux. Et donc aujourd'hui, le scandale, c'est que précisément ce sont des individus qui ne sont pas des sujets nationaux, qui viennent en quelque sorte frapper à nos portes, et par rapport auxquels se repose la question de la solidarité, comme la question de la fraternité. Le Conseil constitutionnel, en mettant en place l'idée que la fraternité est légitime dans l'aide au séjour et à la circulation, mais en refusant d'une certaine façon que la possibilité d'aider à franchir la frontière, continue à travailler dans cette impensée nationale. Et donc je crois que l'une des tâches théorique importante aujourd'hui, c'est de revenir sur les représentations nationales de la question sociale.
Guillaume Leblanc, on peut être fraternel sans être religieux, on peut être fraternel sans être militant, on peut être fraternel sans être politique. Et je me rappelle Xavier Emmanuelli, le fondateur du SAMU Social, racontait dans l'émission À Voix Nue ce qu'il avait aimé lors de son passage dans sa jeunesse au Parti communiste. Il racontait « J'ai vu des militants cocos apporter le pain et le Figaro à la vieille dame. La lutte des classes, je veux bien, mais moi je cherchais la fraternité. Est-ce que la fraternité peut être politique ?
Je pense que la fraternité est à la fois éthique et politique, comme l'hospitalité. Ce qui est intéressant dans ces, ces notions, en quelque sorte, dans ces valeurs, dans ces représentations, dans ces pratiques, c'est que ça déplace la question des frontières entre politique et morale. Si on en reste à une représentation stricte de la politique, effectivement, on a la division, l'institution en partie, la division des pouvoirs, la séparation des pouvoirs, etc. Bon, on est dans une forme de formalisme politique. Si on en reste à la question morale au sens strict, on a l'idée que l'aide à l'égard d'autrui est un impératif moral absolu. Mais précisément ce qu'il y a d'intéressant dans la question hospitalière aujourd'hui, c'est pourquoi elle revient et qu'elle reviendra longtemps, c'est qu'elle déplace la question des relations entre éthique et politique. C'est à la fois éthique, il faut aider son prochain, il faut lui venir en aide, il faut le secourir, et c'est en même temps politique, parce que accueillir, c'est la question de la place laissée à celui qui vient.
Et justement, localement, on peut ajouter plein de nuances à ce propos-là. Tout à fait. Vous avez dû rencontrer aussi, lors de vos déplacements pour votre livre, de ces électeurs du Front National qui, par ailleurs, quand une famille de Syriens, par exemple, je pense à une commune comme Villeneuve-les-Marsans, dans les Landes, une famille de Syriens arrive dans la commune dans le cadre d'une procédure de réinstallation, donc les enfants vont à l'école, on cherche un emploi pour les parents, etc. Et bien même, le maire nous disait, même les électeurs du Front National viennent apporter, ceux dont on sait qu'ils votent Front National, viennent apporter un jeu de rideau, des couverts, un tapis. Parce que c'est décorrélé, en fait, de convictions politiques.
Bah oui, parce que Camus avait finalement raison, entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. C'est-à-dire que quand il y a un visage singulier qui arrive devant mes yeux, qui est sous ma porte, je ne peux pas rester indifférent. Je peux développer une idéologie de la peur lorsque l'étranger est à distance, lorsque il est loin. Alors je peux effectivement construire une forme de distanciation. Mais il est très difficile de renouveler cet éthos de la distance lorsque quelqu'un est très proche. Alors c'est faisable, mais c'est très difficile, heureusement. Et donc on voit des déplacements s'opérer effectivement dans les localement entre des individus qui disaient ne jamais vouloir aider et des individus qui sont happés par l'aide, parce qu'ils sont happés par le visage en détresse de l'autre, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une communauté des visages, une communauté sensible des corps qui les relie les uns aux autres, malgré la langue, malgré les cultures religieuses, malgré aussi une culture de la peur qui s'est quand même instaurée et installée dans notre pays. Dans le manifeste, j'essaie d'analyser cette culture de la peur en montrant qu'elle rend impossible ou très difficile justement le fait de tendre la main. Vaincre la peur est une condition pour pouvoir tendre la main. Or aujourd'hui, nous sommes dans une peur redoublée, dans ce que j'appelle une peur de la peur, qui se nourrit du signifiant étranger pour se développer et qui empêche de voir de façon relativement sereine, apaisée, joyeuse, la culture de l'hospitalité. Parce que, comme vous l'avez dit très justement, l'hospitalité, c'est un ensemble de pratiques, de petits gestes, on charge un portable, on vient en aide à quelqu'un de façon ponctuelle, il n'y a pas à aider de manière permanente nécessairement. Et ces pratiques minimales d'hospitalité, elles renvoient à une joie de l'être ensemble que nous avons désappris justement parce que nous sommes dans la peur.
Le paradoxe, il remonte aussi à la Déclaration des droits de l'homme, son article 13 qui stipule que toute personne a le droit de quitter le pays où elle se trouve, mais pas d'entrée, alors ce qui revient à donner le droit d'être apatride et âme errante.
Le droit de sortie, effectivement, est un droit à peu près partagé dans le monde entier, à l'exception de quelques pays. Le droit d'entrée ne l'est pas. Il suffit de penser à la différence en termes de visa entre un pays comme la France et un pays comme l'Afghanistan. Aujourd'hui, en France, on peut aller à peu près dans 60-70 pays sans visa. Pour l'Afghanistan ou l'Érythrée, le nombre de pays est inférieur supérieure à 5. On voit donc qu'il y a une inégalité dans les conditions d'entrée dans les pays qui nous oblige à réfléchir sur ce que Hannah Arendt avait déjà analysé, à savoir, au fond, la construction d'apatrides, de parias, d'individus qui n'ont plus le droit d'être quelque part, qui n'ont plus le droit d'appartenir, parce qu'ils ont été privés justement de ce droit élémentaire qui est le droit d'entrée.
Alors, dans votre dernier ouvrage, « Vaincre nos peurs et tendre la main », donc ce manifeste dont nous parlions tout à l'heure, vous formulez des propositions. C'est vrai qu'on aime entendre des propositions quand elles existent. Alors, vous en avez deux majoritairement, oui, que vous pouvez nous développer.
Oui, la première, c'est effectivement, je suis étonné aujourd'hui par l'absence de tout diagnostic sur le nombre de mètres carrés de bureaux, par exemple, vides en France. Plusieurs estimations portent les chiffres entre 3 et 5 millions de mètres carrés de bureaux vides en France. Et ce que je demande, c'est qu'un diagnostic soit fait région par région pour savoir quel métrage pourrait être utilisé par des associations pour créer des dispositifs d'aide et d'accueil.
Et aussi pour les sans-abri, parce que la question revient souvent pour ce qu'on appelle les mal logés, les oubliés de la loi d'Allot.
C'était un engagement du candidat Macron, qu'il n'y ait plus personne à la rue. Hein, et aujourd'hui, on ne peut y arriver que si on crée des dispositifs d'accueil qui effectivement prennent en charge à la fois les sans-abri et les migrants, et qui refusent d'ailleurs cette partition que la question sociale a tendance à produire aujourd'hui.
Et les politiques, parce que souvent l'argument qu'on entend, oui, contre l'accueil des réfugiés ou des demandeurs de refuge, c'est justement qu'en France nous avons déjà tant de personnes à loger, tant de personnes à aider.
Oui, mais c'est un argument qu'il faut replacer dans le contexte du pourcentage de migrants qui est en France, qui est finalement très faible. Aussi parce que la France n'est pas un pays, et d'un pays de moins en moins attractif pour les migrants. Et ça, il faut également le dire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une politique de Sisyphe. C'est-à-dire que nous créons un centre d'accueil. Nous le créons en 1999 en urgence à Sangatte. Et puis, au lieu de le pérenniser, d'affiner une culture de l'entraide, de l'accueil, etc., nous le détruisons. C'est ce que nous avons fait en 2002. Suite à quoi, effectivement, des lieux d'occupation sauvage se créent. C'est ce qui s'est passé à Calais avec des usines occupées, qui ont été détruites, suite à quoi la jungle a été créée, et la jungle est une création donc de notre État-nation d'une certaine façon.
Et donc on se prive aussi de créer des compétences.
On se prive vraiment de compétences. Si nous faisions de la politique fiction et que nous imaginions ce que nous aurions pu faire depuis 1999 en termes de création de dispositifs dans toutes les régions de France, en termes de compétences, nous n'en serions absolument pas à ce degré quasi zéro de l'accueil aujourd'hui.
Voilà, et votre dernière proposition, et on va conclure avec ça, c'est de revenir sur la loi qui fait la disjonction entre le droit d'asile et le droit du travail. Mais il me semble que dans le projet de loi qui est prévu...
Tout à fait, c'est un des points qui sont en question.
En tout cas, merci beaucoup Guillaume Leblanc d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
La fin de l'hospitalité apparue l'année dernière, plus récemment Vaincre nos peurs et tendre la main, tous deux chez Flammarion. Et puis je mentionne le dossier de la revue Esprit.
Oui, que nous avons coordonné, Fabienne Brugère et moi-même, le courage de l'hospitalité qui est en kiosque en ce moment.
Merci Guillaume Leblanc.